Bonsoir. Alors désolé pour... j'espère que ça sera quand même éligible parce qu'on ne peut pas le mettre en grand écran, mais bon, ça devrait aller. Je m'appelle Barbara Moulin et ça fait pile, j'ai réfléchi et j'ai compté 10 ans que j'ai présenté mon mémoire sur le verbe de Dieu dans le Coran. Donc je suis à la fois heureuse de vous le présenter, puis ça m'a fait un petit coup de nostalgie quand même parce que 10 ans finalement c'est juste passé. Mais on peut considérer que c'est encore frais dans ma tête. J'ai été donc étudiante en théologie, spécialisation théologie comparée, islam, christianisme, christianisme catholique romain, pour être plus précis. De ce fait, il est possible que parfois je sois imprécise pour nos amis protestants ou orthodoxes, mais justement pour le temps des questions, ça pourrait être un apport très enrichissant d'avoir justement des petites réflexions à ce sujet. Je suis par ailleurs gérante d'un média qui s'appelle Il était une fois et qui traite du fait religieux en France et de l'actualité du fait religieux en France. Le but, c'est de lutter contre toutes les discriminations par le savoir. Et ce que fait Racine et Chemin s'inscrit pleinement dans mon objectif et merci infiniment pour l'invitation. Sans plus tarder, on va commencer avec le thème Jésus dans le Coran, lecture comparée des sources scripturaires. C'est un titre un peu pompeux, mais je vais tâcher d'être assez simple et de simplifier plus ou moins les choses, de ne pas rentrer dans tous les détails, et il y aura peut-être des frustrations, car je ne pourrai pas non plus aborder tous les termes, tant on pourrait, ne serait-ce que, enfin, un mémoire c'était déjà très peu, juste sur le terme du verbe, alors vous imaginez que sur le terme de la vie entière, une conférence d'une heure, ça va être un peu juste. Néanmoins, on a fait un petit planning, un petit programme, puisque la figure de Jésus, elle occupe une place centrale dans deux des trois grandes religions monothéismes, à savoir évidemment le christianisme, qui en fait le fondement même de sa foi, et puis l'islam, qui le reconnaît comme l'un des plus grands prophètes. Pourtant, malgré cette reconnaissance commune, les représentations scripturaires dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament ou le Coran divergent, et ce sur des points essentiels. Donc l'objectif de cette conférence, ça va être vraiment analytique. On va présenter, si mon ordi s'y met aussi, une lecture comparée, fondée sur les textes eux-mêmes, c'est-à-dire que je ne vais pas partir des textes autres que le Coran ou le sujet biblique, puisque là aussi, quand on parle d'écriture, en fait, il y a toute une compilation de textes, donc on s'arrête là aussi que sur le Coran, sinon on aurait vraiment pu y passer des heures et des heures. On commence par le nom et le titre, en tout cas les noms et les titres, de Jésus dans le Coran. Peut-être le savez-vous, mais moi je dis Jésus puisque forcément étant de langue française, ça semble naturel chez moi, mais si je devais faire une conférence uniquement sur la théologie islamique, je devrais dire Issa ou Issa. C'est son nom tel qu'on le trouve dans les versets coraniques, son nom sera le Messie, Issa, fils de Marie. C'est plusieurs expliquent... Comment ?
Fils de Marie.
Marie. Mariam, du coup, en langue arabe. On peut se demander déjà pourquoi une différence de nom, car peut-être avez-vous déjà eu connaissance du texte biblique en langue arabe. Lorsque l'on lit la Bible en langue arabe, quand on voit le mot Jésus, c'est pas Aïssa, mais Yeshua, c'est-à-dire plutôt proche de Yehoshua. C'est une explication qui est d'abord... En tout cas, ce qu'on en trouve comme réflexion, c'est une explication linguistique. Le nom de Jésus qui a circulé à travers plusieurs langues et plusieurs cultures, l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin, avant d'entrer dans des langues européennes. Dans le monde sémitique oriental, notamment en syriaque ou en langue arabe, les adaptations phonétiques auraient pu, puisque c'est une théorie, produire la forme Issa. Mais c'est la seconde explication que l'on retient davantage et qui est beaucoup plus intéressante pour notre sujet ce soir, c'est que c'est une explication théologique. Dans le christianisme, le nom Jésus, ou en tout cas son terme originel, est proche d'un sens religieux qui est fort, à savoir Dieu sauve, en lien direct avec la mission rédemptrice et l'identité divine qui sont attribuées à Jésus. Et en revanche, dans l'islam, le nom Isa, il s'inscrit dans une autre lecture. Jésus est un envoyé de Dieu. Il est exceptionnel, il est honoré, mais il n'est pas divin. Le choix du nom accompagne une compréhension différente de sa mission. Donc les deux traditions parlent bien du même personnage historique, mais le nom qu'elles utilisent reflète aussi la manière dont chacune comprend son rôle et sa place dans la révélation. On va voir de toute façon tout au long de cette explication, de cette conférence, les différentes conceptions de Jésus. Al-Masih, en arabe, le Messie, un terme pour le coup que l'on comprend bien même si on n'a pas fait de l'arabe, puisque c'est très proche au niveau de la sonorité et donc de l'écriture. Et pour le coup, là aussi, dans le Nouveau Testament, je ne vous apprends rien, le titre Christos, c'est une nuance absolument fondamentale. Le titre Al-Masih veut dire autre chose. Il apparaît 11 fois dans le Coran, et Masih, sur l'étymologie, c'est exactement la même chose que Messie, c'est-à-dire ça vient de oindre, frotter, et là aussi, dans les exégèses musulmanes classiques, on se dit, peut-être qu'il est appelé Masih, parce que lui aussi, il a été oint, il a été béni par Dieu. Il est empli d'une forme de bénédiction très forte. Ou alors, parce que dans le texte coranique, Jésus guérissait également en passant la main sur les malades. Donc il y a cette action de frotter qu'on retrouverait dans le terme même Messie. Mais, là où c'est intéressant, c'est que la mission messianique, elle diffère. Tout comme dans son nom, il a perdu la notion de sauveur, dans la mission messianique également, parce qu'il n'a pas pour mission, lorsqu'il reviendra en tant que Messie, de sauver l'humanité du péché. Les deux traditions reconnaissent donc le statut messianique de Jésus, mais divergent radicalement sur ce que signifie être Messie, on le verra tout à l'heure. Kalimatallah, alors ça c'est ce sur quoi j'ai travaillé il y a 10 ans, la parole, le verbe de Dieu. Et là aussi, une grosse différence au niveau de la sémantique. Jésus est appelé parole de Dieu parce que, pour le coup, ça c'est semblable au récit évangélique, il a été créé d'une parole, en arabe, kun fayakun, soit et il fut. C'est-à-dire que par simple volonté divine, par simple prononciation d'un ordre, il a été créé. Il a existé et c'est donc le fruit d'une parole, l'incarnation même d'une parole. Quand Jésus aussi est appelé Ruh min Allah, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, c'est dans la même idée qu'il a été animé par un souffle divin particulier et ça lui donne ce statut d'une conception noble et pure. Un souffle divin et pas plus pur comme contexte de création. Donc, on a, la même création, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intervention d'un père biologique, il est aussi le fruit d'une simple volonté divine. D'autres titres apparaissent, parmi ceux-là, l'illustre, al-wajih, al-muqarabin, c'est l'un des rapprochés de Dieu, Rasulallah, le messager de Dieu, Aya, c'est-à-dire le signe, et celui qui est intéressant, c'est Abdallah, le serviteur de Dieu. Pourquoi ? Parce que le titre de serviteur dans la théologie musulmane, il est pour le coup fondamental, puisqu'il souligne la soumission totale de Jésus à Dieu. Et ainsi, il exclut une forme de divinisation. Donc le Coran reconnaît à Jésus des titres absolument exceptionnels qui ne sont que pour lui, le Messie, la parole, l'esprit divin, mais il les réinterprète systématiquement pour préserver un concept pour le coup pas strictement islamique, puisque le concept d'unicité, on le partage dans les religions monothéistes, mais en tout cas l'islam appuie fortement sur le concept de l'unicité, du fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il est unique, et donc, de ce fait, les titres diffèrent dans ce sens-là. Dans l'islam, il y aura toujours une symbolique, un appel, une réflexion sur le fait que ça ne doit pas être en lien avec sa divinité. Par contre, c'est une vie exceptionnelle, une vie qui est faite de miracles, que ce soit de sa mort jusqu'à sa naissance. Tout d'abord, une naissance miraculeuse. Pour le coup, on partage tout cela si on croit en Jésus, que l'on soit chrétien, et pour le coup toutes les branches, ou bien musulman, c'est l'Annonciation. C'est-à-dire que dans la sourate qui porte le nom de Marie, la sourate Maryam, ou là dans la sourate numéro 3 qui porte le nom de la famille de Maryam, parce que dans le Coran, le petit point de culture générale que je n'ai pas mis sur le support, mais que je vous dis là, la sourate numéro 3 s'appelle Aïl Imran, c'est-à-dire la famille de Imran, et dans la conception islamique, Imran c'est Joachim, c'est le père de Marie. Donc, dans cette sourate-là, il est fait mention de l'Annonciation, l'annonce qui a été faite à Marie, comme quoi elle allait avoir un fils, pas n'importe quel fils, et pas par n'importe quelle manière, par une manière absolument miraculeuse. Et tout comme dans les évangiles, lorsque l'on lit le passage coranique, Marie s'interroge, mais comment est-ce que ça est possible, puisque je n'ai pas connu d'homme. Et les anges lui répondent, aie confiance en Dieu. C'est comme ça. Et elle accepte son destin, ô combien difficile, mais elle accepte son destin avec une pleine confiance. La conception virginale est donc totalement affirmée. Marie interroge, comprend, la naissance de Jésus, c'est un acte direct de Dieu, et il n'y a aucune intervention humaine. Et les points comparatifs sont donc ceux-là. On a un point fondamental, c'est la naissance. Et la divergence, elle va apparaître plutôt dans l'interprétation théologique de cette naissance, c'est-à-dire que l'islam, malgré le fait qu'il reconnaît, c'est une religion qui reconnaît que Jésus a été créé par Dieu, sans intervention humaine, et par sa volonté simple et efficace, si on peut dire ça comme ça, elle ne reconnaît pas une filiation divine pour autant. C'est une expression qu'elle ne met pas dans son vocabulaire théologique. Voilà. Une particularité coranique aussi, au niveau de la naissance, c'est la protection divine contre Satan. On a un verset, toujours dans la même sourate, la sourate donc de la famille d'Imran, qui indique que Dieu a placé Marie ainsi que sa descendance, donc ainsi que Jésus, sous sa protection contre le diable. Alors, on peut se demander ce que ça signifie et en quoi c'est miraculeux, parce qu'en fait, l'islam considère que chacun est touché par le diable à sa naissance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est maudit, ça ne veut pas dire qu'on est impur, ça veut simplement dire qu'on est hermétique, ou plutôt non, du coup, le contraire, qu'on n'est pas hermétique, au fait d'avoir des insufflations, d'avoir un côté entre nous, on va dire... Je suis un peu enclin au mal à ce moment-là. C'est plutôt dans ce sens-là. Jésus et Marie sont les seuls qui n'ont pas été touchés par le diable. Cela signifie donc qu'ils sont purs en pensée, en corps, en esprit. Ils sont presque parfaits, en fait. Hein. Et c'est les deux seuls humains. Le prophète Mohammed n'a pas ce privilège. Il l'a eu plus tard, lorsque une histoire lui arrive dans le récit prophétique à l'âge de 7 ou 10 ans de mémoire. Mais il est né... touché par le diable, entre guillemets. C'est vraiment un privilège fait à Marie et à Jésus. Un autre miracle, c'est le fait qu'il parle au berceau. Pour revenir dans le contexte coranique, mais qui est le même que le contexte biblique, lorsque Marie se revient près des siens, enceinte, alors qu'elle n'a pas connu d'homme, forcément, on imagine bien dans la société de l'époque, puisqu'on imagine très bien comment ça se passerait également aujourd'hui, elle est mal accueillie, évidemment. Elle a très peur et elle est angoissée. Et le Coran rapporte un épisode marquant, c'est que pour défendre sa mère, c'est Jésus lui-même qui le fait. C'est un miracle, puisque le Coran nous raconte une histoire où Jésus, dans le berceau, donc nouveau-né, innocente par la parole, sa mère. Donc le fait qu'il soit verbe de Dieu, vous voyez, ça a un sens ici, puisque c'est lui-même qui vient dire au peuple, ma mère est innocente, c'est une femme bien, c'est la meilleure des femmes, et il faut croire en ce miracle. Et parce que le bébé parle, le peuple imagine bien qu'effectivement, oui, il doit y avoir quelque chose d'assez miraculeux dans cette histoire. Il affirme en ce moment même qu'il est serviteur de Dieu, il se présente comme un prophète, et il innocente publiquement. Alors pourquoi là aussi c'est important? Parce que le fait qu'ils disent je suis le serviteur de Dieu, alors on l'a vu en arabe tout à l'heure, Abdallah, ça veut dire qu'il remet en lumière le fait qu'il n'a pas sa filiation divine, puisqu'il le sert, il est dans la soumission à Dieu et il en est une grande force visible. Sur la guérison des malades, je voulais vous raconter une anecdote, pardon. Comme quoi ça sert d'avoir un texte, on revient sur l'enfant qui parle au berceau et on fait un petit post, on était sur le bébé et là soudain, hop, on passe à l'adolescence. C'est une histoire qui est racontée dans les exégèses de la sourate numéro 1, la Fatiha, la toute première, celle que récitent tous les musulmans à chaque prière. Et dans cette Fatiha, il y a toute première phrase que les musulmans, là aussi, une phrase que les musulmans disent tout le temps. Alors non, c'est pas une phrase médiatique en deux mots, c'est une phrase qui veut dire « au nom de Dieu, le tout miséricordieux », etc. C'est ce qu'on appelle la basmala. Peut-être avez-vous déjà entendu « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Eh bien, on a une histoire dans la tradition musulmane qui dit que Jésus, alors ça, je crois que dans les évangiles, c'est aussi présent, c'est-à-dire qu'il était au temple pour enseigner, ou en tout cas recevoir un enseignement de la part des maîtres. Et dans l'histoire coranique, non seulement il est venu au temple pour enseigner, mais en fait il était tellement brillant que c'est lui qui a enseigné les maîtres. Peut-être l'élève relou à l'époque, mais en tout cas, c'est lui qui est arrivé avec tout son savoir, toute sa connaissance. Et puis, on a une histoire où donc, il parle avec un maître, et puis parmi les discussions retransmises, Jésus demande « Qu'est-ce que c'est Bismillah ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim ?» Le maître dit « Je ne sais pas ». Et là, Jésus, dans toute sa sagesse, tout son savoir, explique le « bar », donc le fait de dire « bi », ça signifie la splendeur, « al-baha » de Dieu. Le « sin », le fait de dire « bi-ism »,« Allah », signifie son élévation, « as-sana ». Et le « mim », donc « bi-ism », signifie son royaume, « al-mulk ». Allah signifie Dieu, ar-Rahman signifie celui qui fait miséricorde en ce bas monde et dans l'autre, et ar-Rahim signifie celui qui fait miséricorde dans l'au-delà. Donc quelque part, tous les musulmans du monde, lorsqu'ils disent Bismillah, eh bien, ils ont un héritage de Jésus. Et ce, je peux vous l'assurer, c'est vraiment plusieurs fois par jour. On repasse dans le côté adulte, où on a, toujours dans le chapitre des miracles, la guérison des malades. Et c'est pas n'importe quel miracle, puisqu'il guérissait l'aveugle et le lépreux. Et ça, ce sont des récits que l'on a de commun dans les récits bibliques ou le récit coranique. La différence, c'est que ces récits, ces miracles, sont toujours accompagnés de la formule « bi-iznillah », alors c'est pas « bi-ismillah », c'est encore autre chose, c'est par la permission de Dieu. C'est-à-dire que quand dans la sourate numéro 3, par exemple, quand on dit je guéris l'aveugle-né et le lépreux et je ressuscite les morts par la permission de Dieu, le par la permission de Dieu, là aussi, vient, on va dire, relativiser, parce que c'est quand même un sacré miracle, mais vient relativiser le fait que ce soit Dieu qui le fasse. Mais lui, il le fait parce que Dieu lui permet. Il est, en quelque sorte, une cause. Et le fait de bien préciser par la permission de Dieu, ça fait que le lecteur, quand il lit ce verset coranique, comprend que ça n'est pas Dieu, puisqu'il le fait parce que Dieu le veut. Oui, d'ailleurs, on n'a pas de description comme on peut l'avoir sur les évangiles avec Bartimée ou les dix lépreux ou le paralytique. Il n'y a pas du tout de description de comment est-ce qu'il faisait pour guérir l'aveugle ou comment est-ce qu'il faisait pour guérir le lépreux. On sait juste qu'il le faisait, mais il n'y a pas d'explication sur la manière dont cela s'est opéré, ni de témoignage. Quant à la résurrection des morts, là aussi, le Coran affirme que Jésus a ressuscité des morts, mais on n'a pas de détails narratifs, on n'a pas de nom, on ne sait pas par exemple si Lazare figure parmi l'expérience coranique, et on n'a pas non plus de circonstances. C'est aussi donc une différence qui s'explique par la portée théologique, parce que là où dans notamment l'évangile de Jésus selon Jean, on peut lire « Je suis là », enfin, qu'il se présente plutôt, comme la résurrection et la vie, eh bien, dans cette idée-là, il y a une forme de résurrection. Le fait que Jésus ressuscite les morts préfigure en quelque sorte sa propre résurrection. Or, dans le discours coranique, vous allez le voir, il n'y a pas cette résurrection de Jésus. Donc, c'est peut-être aussi pour ça, en tout cas, c'est au niveau des commentaires, au niveau des analyses de ces versets-là, qu'il n'y a pas le détail de comment est-ce qu'il ressuscite les morts. Sur la nourriture à profusion, là aussi, un miracle important et qui serait bien nécessaire en ces temps de famine sur Terre, c'est l'épisode de la table servie. Certains chrétiens, certains exégètes, voient une allusion à l'Eucharistie chrétienne dans l'idée que, on lit dans un verset qu'à un moment de la vie de Jésus, il a demandé à ce qu'une table soit garnie de nourriture à profusion en signe de miracle. Ils étaient nombreux et du coup, le grand miracle, c'est qu'on se retrouve avec une table, il y a un morceau de pain, puis soudain, la table est remplie et on ne sait même pas que faire de tous ces aliments. Le Coran ne décrit pas ce que contenait la table, on ne sait pas combien il y avait d'aliments, est-ce que c'était du pain, est-ce que c'était des poissons, tels qu'on peut les lire dans les évangiles. Là aussi, on n'a pas de détails. On ne sait même pas d'ailleurs si la table est descendue. On sait juste que Jésus demande à Dieu qu'il descende cette table parce que les apôtres lui demandent, apôtres qui sont présents aussi dans le récit coranique, mais on n'a pas cette idée on ne peut pas quantifier en fait. Le miracle n'est pas quantifiable. Là aussi, une lecture comparative. Cet épisode, c'est un signe de Dieu et pas un signe de Jésus, puisque Jésus le demande à Dieu. Et dans le christianisme, c'est un discours sur l'identité. On peut comprendre en tout cas cet épisode de multiplication des pains comme un discours de l'identité de Jésus et qui est présenté comme une forme de nourriture spirituelle. D'où le sens et l'allusion à l'Eucharistie. On arrive sur un point extrêmement majeur dans la différence que l'on peut avoir entre nos textes, c'est la crucifixion. Dans le Coran, on lit en traduction, ils ne l'ont pas fait tuer, ils ne l'ont pas fait crucifier, l'affaire leur a été rendue confuse, ou bien souvent traduit, et je vous ai mis au tableau, mais là en projection, la traduction que vous allez voir dans 90% des textes coraniques traduits en français. On parle de faux semblants. Et pourquoi je vous ai mis celui-là? Parce que il y a une des explications parmi de nombreuses explications de ce verset, puisque forcément d'un point de vue théologique, il a une portée immense, et donc il a été extrêmement commenté, mais le terme faux semblant a été parfois compris au sens propre, comme s'il y aurait une forme de. Comme s'il y avait, pardon, une forme de sosie qui aurait remplacé Jésus. Mais vraiment un humain qui aurait ressemblé à Jésus et qui aurait pris la place du crucifié. Alors je rentre un peu dans les détails, là je suis obligée, puisque je pense que vous avez très envie de savoir les détails de ce verset. Tout d'abord, on parle donc d'une chose qui a été rendue confuse. Qui a été rendu confus, donc en termes arabes, la conjecture shak, ou alors la conjecture zan, ou alors il n'y a pas de preuve, rilm, il y a tout un tas de vocabulaire comme ça qui sont dans le champ lexical de on cherche une preuve, mais on n'en trouve pas. On ne comprend pas ce qui se passe sous nos yeux. C'est la grande différence, et pour le coup, ça aussi c'est miraculeux, tous les musulmans, toutes les écoles, les sunnites comme les chiites sont d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas eu de crucifixion. Magnifique. Les gens qui connaissent la théologie musulmane sauront que c'est un miracle, que tout le monde soit d'accord. Dans cette compréhension, Jésus n'est pas mort sur la croix et n'a pas été crucifié. Ils sont venus l'arrêter, dans le récit et dans l'exégèse, ils sont venus arrêter Jésus. Est connu aujourd'hui comme étant soit les Juifs, soit l'armée de Ponce Pilate. On ne rentre pas dans le débat théologique, on ne va pas accuser les absents d'avoir fait des choses. Là, on reste sur le texte. Ils sont venus chercher Jésus, et puis Jésus était avec ses apôtres. Et puis, il savait ce qui allait se passer. Puis il dit, là, il va se passer quelque chose pour moi, ça ne peut pas se passer comme ça, est-ce que quelqu'un veut prendre ma place ? Les récits exégétiques mentionnent Simon, l'apôtre, qui dit « Bah oui, moi, évidemment, je veux prendre ta place, je veux être au même rang que toi au paradis, j'accepte cette mission. » Et Dieu, miraculeusement, aurait fait en sorte que Simon ressemble physiquement à Jésus, qu'ils s'y méprennent et qu'ils amènent Simon, devenu le faux-semblant, se faire crucifier à la place de Jésus, qui, lui, a été élevé directement au ciel. Il y a cette élévation. Alors c'est un récit un petit peu fantaisiste, on peut se dire bon comment est-ce qu'ils n'ont pas vu quand même que c'est pas Jésus, comment c'est possible que les autres n'aient rien dit, on peut se demander plein de choses, néanmoins le texte coranique est ce qu'il est et il nous dit ça, il n'y a pas eu de crucifixion. Alors plus récemment il y a des branches, notamment les Ahmadis, ce sont des branches qui sont assez présentes plutôt dans, on va dire dans l'Asie. Alors c'est très large l'Asie, vous allez me dire, mais bon, ma partie c'est la théologie, pas la géographie, mais je sais qu'ils sont dans cette partie-là, qui ont une compréhension différente en disant « Oui, mais alors, il a dû être crucifié, Jésus, quand même, mais c'est juste qu'il n'est pas mort. » Mais là aussi, au niveau des textes, ça ne marche pas, puisque, que ce soit d'un point de vue biblique, ben, s'il n'est pas mort, comment est-ce qu'on explique la résurrection? Et si c'est le point de vue islamique, enfin au niveau coranique, ben, on nous dit qu'ils ne l'ont pas tué ni crucifié, puisqu'il a été élevé. Donc, un avis qui existe, mais qui reste très minoritaire. L'élévation, elle, donc, est mentionnée. Jésus, donc, on en revient avec notre histoire où c'est Simon qui finalement a été crucifié à la place de Jésus, lui, il s'est élevé par une fenêtre et il a tout de suite été élevé au ciel. Et pour preuve, dans le récit coranique, ou plutôt dans les exégèses des récits coraniques, on a à un moment dans la biographie du prophète Mohammed, paix sur lui, il fait un voyage nocturne. Et pendant ce voyage nocturne, il a la chance immense, le privilège immense, dont nous sommes tous jaloux, de pouvoir rencontrer les prophètes. Et parmi les prophètes qu'il rencontre, au IIe siècle, qui voit-il ? Jésus, ainsi que son cousin Yahya, alias Jean-Baptiste. Donc, il n'est pas mort, puisqu'ils ont pu se rencontrer. D'après, encore une fois, la théologie musulmane. Ça reste quand même une énorme différence de ce fait, puisque dans la foi chrétienne, la résurrection, c'est le cœur même de la doctrine, puisque ça signifie que Jésus a traversé la mort, l'a vaincu. Alors que dans l'islam, la résurrection de Jésus, elle n'est pas affirmée de cette manière-là, puisque Jésus n'est pas considéré comme ayant connu la mort à ce moment-là. Donc on vient de voir des points de convergence, des points de divergence, évidemment. Donc le plus marquant, c'est évidemment la conception virginale de Jésus, puisque aucune autre personne au monde ne connaîtra ça, ou alors sûrement elle ment, puisque aujourd'hui ça reste quand même assez compliqué d'imaginer quelque chose pareil. On a vu que Jésus avait accompli d'énormes miracles, et ce, par la permission de Dieu. On a vu aussi que dans le Coran, il est mentionné la présence des apôtres, donc là aussi un point extrêmement important sur la notion de compagnon, la notion d'allié. Et d'ailleurs, dans le verset coranique, les apôtres déclarent être musulmans. Alors pas parce qu'ils adhèrent au message du prophète Mohammed, mais parce qu'en fait, ils se considèrent comme étant soumis à un Dieu unique. Là aussi, il faut comprendre, en lisant ces versets, cette volonté coranique de dire « il n'y a qu'un seul Dieu et on est tous soumis à lui ». Le fait que Jésus soit prophète, c'est une convergence partielle, puisque bien évidemment, il y a une différence au niveau de la compréhension de la naissance, enfin de l'essence même de Jésus, de son statut. C'est-à-dire que dans le Coran, il est affirmé explicitement que Jésus est prophète. Il est prophète et messager, c'est-à-dire que prophète parce qu'il a reçu et reçu un message, messager parce qu'il a reçu un livre. Alors le Coran dit l'Injil, l'évangile au singulier. Mais c'est le texte qu'on va dire, les évangiles, aujourd'hui on dirait cela. Et les évangiles d'ailleurs reconnaissent aussi cette dimension prophétique. On a plusieurs versets qui parlent de Jésus en tant que prophète. Mais ça va plus loin parce que le christianisme ne s'arrête pas à cette reconnaissance. Jésus est plus qu'un prophète, il est le fils de Dieu, y compris comme Dieu incarné. Or, c'est là que se situe, finalement, probablement d'ailleurs, la divergence théologique la plus fondamentale entre l'islam et le christianisme, puisque là où l'islam voit en Jésus un prophète certes exceptionnel et honoré, le christianisme, lui, il affirme une nature divine. Et ça, le Coran le rejette explicitement au travers plusieurs versets. Par exemple, celui que j'ai mis, c'est le fait que Dieu demande au peuple, ou en tout cas à Jésus, de rendre des comptes, enfin qu'il va falloir qu'il rende des comptes, entre guillemets. Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens « prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors de Dieu » ? Ou alors on a « ne dites pas trois, ce sera meilleur pour vous parce que Dieu est un Dieu unique ». Alors, il est important là de préciser que le désaccord ne porte pas sur Jésus lui-même, mais sur sa nature. Parce que l'islam respecte Jésus, sa naissance, sa mission, sa place éminente, mais quand il s'adresse aux gens du livre, c'est une expression pour parler des juifs et des chrétiens, il les incite, puisque ce sont des versets qui ont été révélés dans un cadre de discussion entre les peuples, il les incite à venir adhérer au message que l'islam prône, à savoir un Dieu unique. Donc, de ce sens, la négation de la filiation divine et de la nature divine de Dieu et de Jésus, enfin voilà comment il perd, c'est l'essence même aussi de la révélation coranique. Puisque si vous avez l'occasion de lire les deux livres en parallèle, que ce soit la Bible ou alors plutôt partie Ancien Testament y compris, ainsi que le Nouveau Testament et le Coran, vous allez voir qu'il y a des récits qui sont très croisés, à tel point que parfois on se dit, mais effectivement, pourquoi parfois un texte a été révélé puisque ça semble dire la même chose ? Eh bien, la notion même du statut de Jésus en est une réponse, puisque le Coran insiste tout au long des versets sur l'unicité, le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le fait qu'il Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré, et donc que Jésus doit être compris comme étant une figure immense, mais pas comme Dieu. Le christianisme et l'islam, ils partagent la foi en un Dieu unique. Personne ne peut nier que les chrétiens sont également des croyants monothéistes, mais ils n'emploient pas le même langage pour en parler. Là où, par exemple, le christianisme utilise la notion de trinité, l'islam, lui, affirme la notion d'unité, sans division, sans distinction interne. Il n'y a pas d'explication sur ce que l'islam considère comme étant une trinité, il n'y a pas d'explication théologique sur ce terme, puisqu'il est tout simplement absent du récit coranique. En ce qui concerne le fait que Jésus soit considéré comme étant sauveur, là aussi, il y a une divergence sur la nature du salut. Dans la foi chrétienne, Jésus est reconnu comme étant le sauveur, parce que, on vient de le voir, par sa mort et par sa résurrection, il est compris comme celui qui libère l'humanité du péché et qui ouvre l'accès à la vie éternelle. Le salut passe donc par la foi en Jésus, mort, ressuscité, pour les péchés du monde. Je fais ça parce que je cite les évangiles, évidemment. Le salut chrétien donc, passe donc par cette foi, tandis que dans l'islam, il n'y a pas besoin de sauveur, en tout cas, ce n'est pas nécessaire. Parce que l'islam, déjà, rejette la notion du péché originel et la notion de rédemption par un intermédiaire. L'islam, il adopte une autre compréhension du salut. Chaque être humain est responsable de ses propres actions. Et nul ne portera le fardeau pour quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va porter pour nous les péchés et se les faire pardonner à notre place. On est tous responsables du début de notre conscience, pas de notre naissance, mais de notre conscience, jusqu'à la fin de notre vie terrestre, si on est là aussi encore en conscience. On est responsable. Nos actes, notre foi, nos actions, tout ça, ça compte, et on est les uniques, on va dire, responsables, ouais, je redis le mot responsable, mais en fait, il n'y a pas d'autre mot, de cela, de ce genre de jugement. Et donc, du coup, bah, ça change là aussi la notion de foi en Jésus, foi en prophète. C'est-à-dire que l'islam reconnaît la foi en Jésus, on croit en lui, on croit en son histoire, on croit en son rôle extraordinaire, en ses miracles, mais c'est pas lui qui va nous sauver. Tout comme, ça ne fera pas Mohamed non plus. C'est vraiment nous-mêmes face à Dieu. Et puis, Jésus revient parmi les siens à la fin des temps. C'est donc un signe de l'heure. Alors quand on dit que c'est un signe de l'heure, ça signifie que c'est un signe de la fin des temps. C'est-à-dire qu'au moment où, peut-être qu'on le vivra, peut-être qu'on ne le vivra pas, mais au moment de la fin des temps, lorsque la vie terrestre va s'arrêter, tout va s'arrêter, et que les humains vont être jugés, et puis aller, s'ils le croient, en enfer ou bien au paradis. Inch'Allah, tout le monde au paradis. Jésus va être un signe. Il va revenir en qualité de Messie. Rappelez-vous, on a parlé de ça tout au début. Il n'est pas mort, il a été élevé vivant vers Dieu. Et c'est à ça que cette idée sert. C'est que la tradition musulmane affirme qu'il va revenir pour rétablir à ce moment de fin des temps où ça va être le chaos sur Terre, ça va être la peur, l'angoisse, un moment pas très agréable. Lui, il va revenir pour rétablir la justice, et donc de ce fait pour mettre fin à l'injustice. Et, encore une fois, le Coran est très 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 axé sur cela, rétablir le monothéisme. À l'issue de cette mission, qu'il va réussir, évidemment, il mourra, comme tout être humain. Et ce retour, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle en théologie l'eschatologie, c'est-à-dire la science de la fin des temps, l'eschatologie islamique, et ça confirme le rôle prophétique de Jésus et pas son rôle divin, puisque c'est pas Jésus qui va mettre fin à la vie sur Terre. Lui, il va mourir comme tout le monde. C'est différent, du coup, de ce qu'on appelle en théologie chrétienne la parousie, où Jésus revient pour ce jugement final qui n'existera pas avec... En tout cas, Jésus n'en fera pas partie au moment où il va arriver. Donc, si les deux traditions attendent le retour de Jésus, elles divergent profondément sur son identité et sur le sens théologique de cet événement. C'est un prophète qui est rétabli dans sa mission dans l'islam, et c'est un seigneur qui est glorifié dans le christianisme. Alors, c'est bien sûr un gros raccourci que de parler ainsi, mais bon, si on se lance dans une... Déjà que la théologie, c'est pas simple. La théologie comparée, c'est déjà lourd, mais si en plus je pars dans l'eschatologie, je vous perds. De ce fait, comme j'avais prévu, moi, 45 minutes, une heure, voilà, on va sur une conclusion un peu générale. On peut entendre dans les débats, pas dans les dialogues interreligieux, mais dans les débats interreligieux, c'est important de préciser le terme débat, et surtout en ce moment sur les réseaux sociaux, que quand on dit Jésus dans le Coran et Jésus dans l'islam, on entend beaucoup, mais c'est pas la même personne. Vous ne croyez pas en Jésus, soit un chrétien va dire ça à un musulman, et un musulman va lui rétorquer, bah toi non plus. Et donc, on a certains qui vont développer des idées comme quoi le Jésus du Coran, le Jésus de l'islam, c'est pas le même, tout comme certains vont dire dans les débats interreligieux que finalement le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran ne sont pas les mêmes. Or, dans le dialogue interreligieux, nous sommes beaucoup plus engagés, beaucoup plus instruits et beaucoup moins primaires. Et donc, de ce fait, nous pensons que c'est un même personnage, mais avec deux conceptions, deux théologies. Chaque tradition va proposer une lecture qui va être cohérente avec sa propre théologie. L'islam, vous l'avez compris, est fondé sur la notion d'unicité, donc en arabe c'est le terme tawhid, qui ne peut, selon cette conception, puisque c'est cohérent selon sa conception, accepter la filiation divine, la crucifixion, la résurrection et tout ce que l'on a vu précédemment. Le Jésus coranique, il est grand précisément parce que c'est le serviteur parfait. Dans le christianisme, où il y a plutôt une forme d'incarnation, c'est un dogme, ainsi que la Trinité, on ne peut pas concevoir le salut sans la croix et sans cette résurrection. Donc le Jésus évangélique, biblique, il est sauveur précisément parce que Dieu s'est fait homme. Donc, au-delà, bien évidemment, des polémiques, puisque vous avez bien compris l'objet de la conférence, hein, c'était pas de partir dans des sujets, faut dire les termes, mais c'est-à-dire de ne pas partir dans les polémiques, le manque de respect, etc. C'est surtout quand on a ses clés dans la main, en tout cas quand on comprend ses points, s'inviter au dialogue, ce qu'on fait ce soir. Puisque une étude comparée, ça ne vise pas à trancher, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de la conférence en disant « alors moi, du coup, je suis d'accord avec tel sujet, tel savant, etc. » Ça, c'est pas académique. Nous, en théologie, en tout cas dans le système universitaire, on s'en tient aux faits et on ne donne pas notre avis. C'est-à-dire qu'on dit « voilà, il s'est dit ça, il s'est dit ça, il s'est dit ça », et après, l'avis personnel, bah, si on le met dans notre mémoire, on se fait saquer. On n'a absolument pas le droit de donner notre propre avis. Et ça nous amène justement à vraiment s'intéresser aux faits, les transmettre et puis chercher, retranscrire dans un point de vue universitaire uniquement. Et de ce fait, on comprend comment chaque tradition va construire sa propre cohérence théologique autour de la figure de Jésus. Et donc, quand on parle de dialogue interreligieux, on n'est pas dans un débat sur le bon Jésus, le mauvais Jésus, le bon texte, le mauvais texte, mais on considère vraiment qu'il y a deux manières, et puis là je n'ai parlé que du christianisme et de l'islam, et en plus j'ai fait quelque chose de très général, j'aurais pu partir dans des conceptions propres à chaque branche, des petites distinctions, j'ai parlé du sunnisme aussi, parce que je ne maîtrise pas le sunnisme, mais très certainement qu'ils ont aussi des nuances qui diffèrent. Chacun construit sa propre cohérence théologique autour de la figure de Jésus. Et donc, on a deux manières de penser Dieu, de penser la révélation, de penser le salut, et finalement de penser aussi l'humanité. L'humanité, les croyants, la foi, les livres, les textes, tout ce qui compose la beauté d'avoir la foi et de transmettre et de croire. Jésus dans le Coran et Jésus dans la Bible, ou plus précisément dans le Nouveau Testament, ce ne sont pas deux personnages différents, mais deux interprétations d'un même personnage qui sont toutes les deux ancrées dans deux visions du monde, deux théologies et finalement deux espérances. Parce que dans tous les cas, on espère tous qu'il va revenir et qu'aussi la justice va régner sur terre. Il est temps. Et c'est précisément cette tension, c'est-à-dire nos divergences, et le respect mutuel, là pour le coup même dans la divergence, qu'elle requiert, qui rend le dialogue islamo-chrétien à la fois complexe, mais indispensable.